Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager une réflexion sur le fait d'avoir de l'assurance. Et donc dans un passage de la Bible, là, dans Actes 4, au verset 13, il nous est dit que toutes les personnes qui étaient dans des positions d'autorité, les chefs du peuple, les anciens d'Israël, ils étaient présents là, et il nous est dit que ces hommes étaient impressionnés lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Donc voilà plein de choses très intéressantes, juste dans un seul verset. Ils étaient étonnés car c'était des hommes sans instruction. Donc des fois on a l'impression que, voilà, pour que je puisse être fort dans ma foi, il faut au moins que j'ai fait plusieurs années de théologie, que je connaisse le grec et l'hébreu et l'histoire de l'Église et je ne sais quoi encore, mais ces gens-là, ils n'avaient pas beaucoup d'instruction pour leur temps. Il faut dire que les enfants des Juifs, c'est un terme tout à fait impropre, hein, vous savez, juif, c'est un terme qui représente normalement une autre partie de l'histoire de l'humanité, mais là, on pourrait dire du peuple d'Israël ou des Hébreux, ils avaient toujours une connaissance de la Bible parce qu'ils étaient élevés avec la Bible. Donc ils connaissaient dès leur plus jeune âge les psaumes, les prophètes, le Deutéronome avec les lois de Moïse et tout ça. Donc on peut pas dire qu'ils n'avaient pas d'instruction du tout, mais quand même, ils n'avaient pas été dans une école de rabbin et fait des études prolongées. Donc c'était quand même étonnant de voir cette assurance qu'ils avaient. Et donc, chose intéressante pour nous, ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Pour nous, ça prend tout de suite un double sens. C'est pas seulement qu'ils aient accompagné Jésus physiquement et marché avec lui. Ah oui, c'est Jésus et ceux qui étaient avec lui. Mais Jésus faisait de la vraie formation de disciples. J'ose à peine dire à l'image de ce qui se passait dans l'Antiquité, parce que Jésus n'a pas copié ce que d'autres font, mais des maîtres philosophes en Grèce avaient aussi, comme les philosophes comme Socrate ou d'autres, à Athènes, il y avait le maître qui enseignait la philosophie et des gens qui écoutaient, mais qui n'étaient pas seulement de temps en temps, je viens pour prendre un cours. C'était, ils vivaient ensemble et puis ils apprenaient à une école de vie. Donc ce même système, Jésus l'a vécu avec ses disciples. Ils étaient ensemble pendant 3 années de formation. Et donc à la fin des évangiles, quand Jésus dit cette mission pour les disciples, il leur dit voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et maintenant allez, faites en mon nom des disciples. Et donc quand il dit se former des disciples, former, ça veut dire une formation. Une formation de qualité n'est pas concevable au niveau biblique sans qu'il y ait la pratique. C'est une formation, ce n'est pas simplement donner un cours magistral et un enseignement. Il y a toujours un côté vivre ensemble, faire ensemble, réaliser quelque chose, montrer, démontrer. Donc c'est pour ça que je crois que la vie chrétienne, quand elle connaît des échecs, c'est peut-être parce que la formation elle n'est pas bonne. Si notre formation chrétienne se limite à venir de temps en temps écouter, ou même écouter chez soi, ou même lire, ça sera toujours incomplet, tant qu'on ne va pas jusqu'au bout, qu'il y ait une action, qu'il y ait une démonstration à un moment ou un autre. Et donc c'est ça qui est important. Alors c'est comme ça que, avec ce programme de formation, se développe de l'assurance. On a de l'assurance parce qu'on pratique, parce qu'on exerce. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre et Jean? Ils avaient de l'assurance. On pouvait être étonné, mais je crois que pour nous, en tant que chrétiens, c'est un défi qui nous est lancé, c'est un challenge. Quelles sont les assurances que nous avons? Et ceux qui attendent un bébé peuvent le dire aussi. Il y a un temps d'attente et de développement, mais quand il sera né, on en a parlé l'autre soir déjà, c'est là que ça commence. Je peux pas dire c'est terminé. Maintenant, ça y est, il ou elle est né. Maintenant, c'est fini. Et enfin, ce que nous voulions. Non, après commencent les premiers pas. Donc, qu'on soit maintenant jeune ou vieux, chrétien de longue date ou pas, les premiers pas sont importants. Et de temps en temps, peut-être il faut un peu revenir sur nos pas et se rappeler, la Bible nous parle d'un moment qu'on avait le premier amour, se rappeler certaines choses qui nous ont motivés au début. Et ça nous permet de voir si on est vraiment dans cette direction de la formation que Dieu voudrait. Donc moi, j'aimerais que vous puissiez vous interroger vous-même. Je ne vais pas maintenant faire une enquête, quelles sont vos assurances, mais de voir un peu quelles sont des questions qui pourraient me déstabiliser. Quand des gens, quand on parle de l'éternité, par exemple, bon, il y a ceux qui nient qu'il y ait quoi que ce soit, sans faire de l'humour, mais ils auront une mauvaise surprise à un moment donné, parce que la Bible nous dit qu'on sera devant le tribunal de Dieu, et on sera jugé sur nos paroles, sur nos actes, sur nos pensées, sauf ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont déjà été jugés, puisque tout a été mis sur Jésus pour qu'on n'ait plus à le porter. Donc il y a un certain nombre de choses où il faut se poser des questions. Donc par rapport à l'éternité, est-ce qu'on a de l'assurance? Est-ce qu'on a de l'assurance? Alors si on dit à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel, par exemple? Est-ce que tu es sûr que tu passeras l'éternité avec Dieu? Beaucoup de gens vont, s'ils ne sont pas résistants à la foi, vont dire, ben, je l'espère. La plupart du temps, ça va être ça. Donc espérer n'est pas une mauvaise chose, hein, puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Mais l'espérance, donc, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, j'ai souvent dit, l'espérance, la foi et l'amour, c'est comme un escalier avec trois marches, quoi. On marche d'abord sur l'espérance. L'espérance, c'est, on se forme une image de quelque chose qu'on aimerait se réaliser. C'est déjà un peu plus que juste un souhait, hein. Ben, demain, j'ai prévu quelque chose, je souhaite qu'il fera beau. Voilà, c'est pas de l'espérance, il n'y a pas de nature spirituelle là-dedans, c'est juste un souhait. Mais après, ça va un peu plus loin. Quand on a une espérance, il y a une note spirituelle. Donc, espérer de passer l'éternité avec Dieu, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Et puis, il y a une étape supplémentaire, c'est la foi. La foi, c'est justement... Ces définitions, on peut toutes les trouver dans la Bible. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils se font leur propre croyance par rapport à ce qu'ils pensent, plus ou moins. Non, justement, on revient au modèle de départ de ce que Jésus a enseigné, de ce que les apôtres ont enseigné. Donc dans Hébreux 11, on peut lire la chose suivante, au chapitre 11, verset 1. « Or la foi, c'est la... » ferme
assurance.
Ah, il y a aussi le mot assurance, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un acte, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, c'est pas juste de nature intellectuelle. Donc par la foi, et puis ensuite c'est tout le temps dans ce chapitre, par la foi, tout ce qu'ils ont fait par la foi, c'est une ferme assurance. Donc on n'est plus dans l'espérance, on est au-delà. Et la foi, elle dit, c'est à moi maintenant. L'espérance dit, je l'aurai un jour. Et beaucoup de gens, par exemple, ils disent concernant la santé ou la guérison, je sais que Dieu me guérira un jour. Et ils pensent qu'ils font une déclaration très très forte en disant ça. Mais en réalité, ils ne sont pas dans la foi. Ils sont dans l'espérance. Ils ont l'impression que je sais que Dieu me guérira un jour, mais ils sont dans le futur. Donc ils le projettent. Et la foi dit... c'est à moi, c'est réalisé, Dieu a tout accompli. Alors peut-être effectivement on vient vous confronter, mais regarde, tu ne marches pas encore, donc tu n'es pas guéri. Quelqu'un m'a dit une fois cette chose, il a dit, vous êtes guéri si Dieu vous dit que vous êtes guéri ou si le médecin vous dit que vous êtes guéri. Donc si le médecin confirme, c'est fait, donc du point de vue médical, c'est fait. Mais si Dieu le dit dans sa parole, c'est tout autant une réalité pour nous. Il l'a fait, c'est pas il va le faire. Sinon, on est toujours dans une attente pour demain, alors que on sait que c'est fait. Il y a juste certaines choses au niveau du corps qui doivent encore se mettre en place. Alors ça dépend de la situation dans laquelle on est, hein. Des fois c'est vite dit et des fois ça prend longtemps, mais c'est une réalité que nous voyons ici comme établie dans la Bible. Donc c'est une assurance. Alors concernant par exemple le salut, si vous discutez avec quelqu'un et que cette personne dit bah, je l'espère, et vous dites bah, moi je sais, j'en suis sûr, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je suis chrétien, je sais que je suis sauvé, certaines personnes vont réagir en disant bah, c'est vraiment la prétention, c'est de l'arrogance, c'est pour qui vous prenez-vous, vous croyez que vous êtes meilleur que nous. Alors il y a une explication très simple, c'est que des choses spirituelles sont souvent expliquées par des illustrations naturelles. Encore une fois, la venue d'un enfant. Quand un enfant va naître, mais on est au cœur de la vie, hein, vous n'êtes pas des numéros spéciaux. Alors, quand un enfant va naître, une fois qu'il est né, c'est l'enfant de ses parents. S'il pouvait parler, qu'il ne parlera pas immédiatement, mais s'il pouvait parler, on pourrait l'interviewer en disant, mais est-ce que tu es l'enfant de tes parents? Est-ce qu'il dirait, je l'espère, ou je crois que, assez rapidement, il peut identifier papa et maman. D'accord? Donc, soit on l'est, soit on l'est pas. Elle dirait, mais dis donc, pour qui te prends-tu? Tu crois que tu es l'enfant de tes parents? Ce serait ridicule de dire des choses comme ça. C'est comme si on est marié, on est passé devant monsieur le maire, il a dit au nom de la loi, je déclare mariée femme. Maintenant, si elle dit à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu es marié? Et elle dit, bah, je l'espère. Tu crois ou tu n'en es pas sûr? Qu'est-ce qui t'arrive là?
Tu l'es ou tu l'es pas?
Alors tu regardes dans le livret de famille, et c'est écrit, il y a le tampon de la mairie, ça a été signé pour te rappeler. Donc il y a des choses que finalement on peut s'appuyer sur des illustrations tout à fait qui sont dans le cours des choses naturelles où tout le monde accepte. Pourquoi je dis ça? Parce que si moi je dis seulement la Bible dit que, la Bible dit que, la Bible dit que et tu dois le croire, ça ne marche pas pour quelqu'un pour qui la Bible ne fait pas autorité. Vous voyez? Si je suis maintenant dans un pays et que dans l'autre pays il y a d'autres lois, et que je vais maintenant chez nos voisins et les lois sont différentes, je dis oui, mais notre code civil dit que... Il dit, mais j'en ai rien à faire de votre code civil, ça s'applique pas chez nous. Donc c'est la même chose. La puissance de la parole de Dieu s'applique avant tout pour le croyant. Elle s'applique d'une manière générale pour tous les hommes, mais surtout pour celui qui y croit. C'est celui qui en a les bénéfices. Donc dans un premier temps, c'est bon aussi d'expliquer les choses dans le naturel. C'est-à-dire, vous voyez, on peut donc savoir, de la même façon qu'un enfant sait qu'il est vraiment l'enfant de ses parents, qu'un conjoint sait qu'il est marié, ben on peut aussi savoir qu'on est enfant de Dieu. Et après, on dit, ben voilà, maintenant on va regarder comment on peut faire pour avoir de l'assurance. Et on va regarder un passage biblique qui est dans 1 Jean 5, 11. Voici ce témoignage. Donc quand vous voulez rendre témoignage parce que vous avez de l'assurance, quel est ce témoignage? Dieu nous a donné la vie éternelle. Vous voyez, ce n'est pas « j'espère avoir la vie éternelle ». Celui qui l'a écrit, il a dit « Dieu nous a donné ». Il n'a pas dit « Dieu m'a donné parce que je suis l'apôtre Jean, que j'étais le préféré de Jésus et que j'étais couché tout contre lui quand on prenait la Sainte Seine ou des choses comme ça ». Ce n'est pas de l'ordre du cas spécial ou du sentiment ou de quoi que ce soit. Il dit « nous a donné ». Nous, c'est-à-dire moi et tous ceux qui croient de la même façon, et vous à qui j'écris, nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Les gens disent, oh, avec toutes ces religions, on ne sait plus quelle est la bonne, etc. On s'en sort plus. Là, c'est simple. Tu as le Fils ou tu n'as pas le Fils. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Que vous sachiez savoir avoir cette assurance. Donc ça, c'est pour nous en tant que chrétiens, ça peut être une base de discussion, ça peut être en tout cas un témoignage, puisque Jean a écrit « Et voici ce témoignage ». Quand vous voulez rendre témoignage de quelque chose, vous pouvez me dire « Je sais que je suis enfant de Dieu parce que j'ai eu un grand sentiment de paix ou une joie débordante ou de la chair de poule. » Ou vous voyez, quelles que soient les choses que vous avez expérimentées à un moment ou à un autre, vous amenez une personne à dire « Oui, mais moi je le sais parce que l'apôtre Jean a écrit pour que nous le sachions. » Il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est ce passage de la Bible pour qu'on ait cette assurance. On a le Fils de Dieu, il est la vie, il nous a communiqué la vie. Et la vie, c'est pas seulement la vie de notre corps mortel, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu. C'est beaucoup plus que ça, c'est celle qui va jusque dans la vie éternelle. Vous sachez que vous avez la vie éternelle. Et vous avez la vie éternelle. Pas vous aurez la vie éternelle. C'est tellement différent tout ça. Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi ? Je trouve très simple. C'est très simple. C'est pas compliqué à comprendre. D'où, encore une fois, on revient à... C'était des hommes du peuple, sans instruction, sans bagage théologique approfondi. On n'est pas contre les théologiens. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas d'obstacle à recevoir les pensées de Dieu simplement parce qu'on n'a pas fait des études poussées. On peut recevoir des choses simples. Alors, une autre assurance que j'aimerais voir avec vous, c'est l'assurance de l'exaucement dans la prière. On a un passage, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 24. Voilà, c'est bon de le chercher aussi des fois soi-même, de pouvoir le vérifier. Oui, c'est bien écrit ici. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Notre version dit parfaite, perfection dans le sens de maturité, d'avoir atteint certains stades jusqu'à présent. Alors, petite explication, il y a trois évangiles qui sont pareils, Matthieu, Marc et Luc. Ça raconte à peu près les mêmes événements, certains plus ou moins détaillés, mais ils sont pareils. Et l'évangile, selon Jean, est un peu différent parce qu'il y a un certain nombre de récits de choses que Jésus a faites. Et puis, il y a une grande partie, un certain nombre de chapitres, dont ces chapitres autour de entre 14 et jusqu'à 17 inclus, où ce sont des paroles que Jésus adresse à ses disciples. Et ces événements se passent dans la dernière semaine avant sa crucifixion. Donc, on peut dire que c'est des choses qu'ils voulaient leur léguer, des choses vraiment personnelles, profondes, dont ils avaient absolument besoin. Il a dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » On voit nulle part dans les évangiles jusqu'à présent, et les disciples en prière disaient « Ben voilà, Père, dans le nom de Jésus, je te demande. » Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que il y avait une période où le peuple d'Israël s'adressait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis il y a eu une période où Jésus le Messie est venu. Il y a eu la période avant sa crucifixion et résurrection et une période après. Avant, c'était un homme, il nous est dit, comme nous, mais rempli de Saint-Esprit, de puissance, qui faisait des prodiges, des miracles. Il n'était pas fils de Dieu à ce moment-là, dans le sens qu'il n'agissait pas comme un Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Il était limité, il nous a dit qu'il était fatigué, il devait s'asseoir, dormir, manger. Donc, c'était pas Dieu dans ce sens. Et il disait souvent de lui-même « le fils de l'homme ». Vous voyez cette expression « le fils de l'homme ». Il disait pas « et moi, le fils de Dieu, je, ceci, cela ». Puisqu'il a paru comme un simple homme, mais par contre, l'Esprit de Dieu l'a identifié. À un moment donné, quand il y a eu cette voix qui s'est fait entendre du ciel, et il nous a dit « le Saint-Esprit descendu sur lui comme une colombe », et il y a eu cette déclaration « voici mon Fils bien-aimé ». Mais il n'a été réellement déclaré Fils de Dieu qu'après sa résurrection. Parce que avant, il fallait qu'il soit soumis en tout à toutes sortes de tentations et d'épreuves comme nous. Sinon, s'il avait eu un super pouvoir de résistance aux tentations, il n'aurait pas été capable d'être déclaré juste. On a vu dire, bah oui, nous, on a échoué, on tombe dans des péchés, des tentations. Pour toi, c'était facile, puisque tu es fils de Dieu, rien ne pouvait t'arriver. Et donc il a pris ce chemin exprès de l'obéissance. Mais à un moment donné, il y a eu une transition. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez jamais pu utiliser mon nom. Mais maintenant, le nom de Jésus va revêtir un caractère différent, puisqu'il aura été déclaré fils de Dieu par Dieu lui-même au moment de la résurrection, et maintenant on peut utiliser le nom. Et il dit à ses disciples, voilà, et maintenant, ce nom, vous pourrez l'utiliser. Vous pourrez agir en mon nom. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait, mais maintenant vous pourrez le faire. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que même si la prière du Notre Père conserve tout à fait un certain nombre d'enseignements, des choses très intéressantes. C'est une prière qui se situe entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisqu'elle n'utilise pas le nom de Jésus. Nous sommes à la fois dans le Notre Père et déjà au-delà. Comprenez ce que je veux dire? Puisque, par exemple, pour certaines choses, nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », parce qu'on a besoin de la protection de Dieu. Mais plus loin, dans l'épître aux gens, à Jean, on dit « celui qui est de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas ». Donc le chrétien, l'enfant de Dieu qui apprend à utiliser le nom de Jésus, c'est pas qu'il se débrouille tout seul, c'est qu'il apprend à utiliser la puissance de Jésus et le nom de Jésus. Et donc, il y a quelque chose de plus qui se rajoute. C'est pour ça qu'on a dit dans la Bible, il y a une révélation progressive. Il y a des choses qui étaient cachées, que les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Et il y a des choses qui ont été révélées par Jean-Baptiste d'abord, par Jésus après, puis par les épîtres de Paul, puis par l'Apocalypse, et nous on arrive maintenant à la fin des temps, avec toute cette Bible à notre disposition, et Dieu c'est comme s'il ouvrait peu à peu les mystères de la foi. Mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché, et de plus en plus on découvre des choses, et on découvre le plan de Dieu, et on découvre les desseins de Dieu. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise on arrache les pages d'autrefois, d'autres vieilles choses, on n'a plus besoin. Ancien Testament fini, on est dans le nouveau maintenant. Non, parce que l'ancien a aidé à construire le nouveau. Et le nouveau, c'est comme les évangiles. On dit que l'évangile, selon Matthieu, a spécialement été écrit pour les juifs. Parce qu'il leur parle d'un certain nombre de choses. Spécialement. Mais c'est quand même la bonne nouvelle. C'est quand même très utile pour nous. Et donc, c'est graduel, et moi je dis, bon, on tourne des pages, on va plus loin dans le livre, mais on n'arrache pas les anciennes, et on conserve les bonnes choses. Et notre Père sera toujours un bon canevas de prière, parce que les disciples ont dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et Jésus leur dit, si quand vous priez, alors dites, et il a tous les éléments, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donc donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc tous ces principes sont valables et vous pouvez les appliquer jour après jour. Et on rajoute, on ose rajouter maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez pas fait ce que vous allez faire maintenant, c'est-à-dire demander en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est pour ça que quand on parle maintenant de l'exaucement de la prière, quand vous dites à certaines personnes, peut-être qui ont des difficultés, etc., de certaines personnes vont dire « Ouais, mais elle est très croyante, elle prie beaucoup. » Il y a une différence entre répéter la même prière ou comprendre le principe que maintenant, on peut s'adresser au Père et on peut utiliser le nom de Jésus. Et l'exaucement, il réside dans ce fait. Dans le fait d'utiliser le nom de Jésus. Pas comme une formule magique, mais de comprendre, il a tout accompli pour nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, quand je m'adresse à Dieu dans le nom de Jésus, mes prières sont entendues. Dieu ne se laisse pas fléchir parce que les gens vont pleurnicher. C'est pas méprisant ce que je dis. Ou même pleurer. Ou même être désespéré. Parce que sinon, rendez compte comment il serait injuste. Il y a beaucoup de malheureux sur la terre actuellement. Vous croyez pas qu'il y en a qui, croyez pas qu'il y en a beaucoup qui crient et qui appellent au secours et rien ne vient? C'est tragique. Mais la Bible nous dit, mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et c'est là que notre mission de faire des disciples, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre est si importante. Tant qu'ils ne savent pas comment s'adresser à Dieu, il y a toujours des obstacles et des barrages qui se dressent. Et alors les gens ne comprennent pas, mais tu es injuste, mais pourquoi il fait rien pour ces malheureux et tout. La réponse, qui va peut-être décevoir certains, mais en réalité c'est une réponse glorieuse, c'est qu'il a déjà répondu. Il a déjà répondu parce qu'il a envoyé son plus précieux personnage qui était au ciel, son fils, il l'a envoyé pour que justement il y ait une réponse. Et c'est au travers de lui qu'il y a la réconciliation avec Dieu et c'est au travers de lui seulement qu'il peut y avoir la réponse aux prières. Plus vite les gens auront compris ça, plus vite ils vont aussi voir des choses changer dans leur vie. On ne peut pas manipuler Dieu. pouvez jeûner autant que vous voudrez, ça ne changera pas Dieu. Ça vous changera vous, mais ça ne changera pas Dieu. Il va dire, oh, maintenant je suis obligé de l'exaucer, vu tout ce qu'il a fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas faire autrement que d'aider cette personne. Elle a tellement pleuré. Non, c'est tragique de voir toute la misère humaine, mais plus vite on apprendra aux gens comment avoir accès à Dieu, plus ils pourront se saisir de ces choses. Donc on a une assurance en l'exaucement. Donc nos prières, comme disait un ami autrefois, il disait, nous on était là à prier, nos prières n'allaient même pas jusqu'au plafond. C'était toujours une expression, nos prières n'allaient même pas jusqu'au plafond. La réalité c'est qu'elles n'ont même pas besoin d'aller jusqu'au plafond, parce que Dieu est en nous, il n'y a pas de distance dans la prière. Mais il y a une distance spirituelle qui fait que soit on est en contact avec le ciel, soit on ne l'est pas. C'est pour ça que ça a tellement choqué les gens quand dans l'évangile selon Jean, à un moment Jésus disait « Et je vois désormais les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. » Donc il faisait allusion à l'échelle de Jacob où il avait une vision sur les cieux et ça c'était choquant. Comment peut-il dire ça? Incroyable! Mais c'est une réalité. Réalité spirituelle maintenant. Les cieux sont ouverts. Donc dans d'autres passages de l'Ancien Testament, à un moment, il dit les cieux étaient d'airain, et donc comme airain, c'est le bronze, ce métal, comme s'il y avait une espèce de barrière là, infranchissable. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux, c'était la prière de cette personne dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, nous savons que les cieux ont été déchirés à l'image du voile qui a été déchiré au moment de la mort de Jésus. Il nous a dit le voile du temple s'est déchiré. Vous savez, l'épaisseur du voile, hein, on pensait léger voile, il y a un petit souffle et le voile bouge. Non, c'était une chose épaisse de 10 à 15 centimètres, au moins le voile. Il fallait pas que ça franchisse. Et ça a été déchiré d'en haut jusqu'en bas, au moment où Jésus est mort. Donc, tout a été réalisé pour qu'il y ait cette communication entre le ciel et la terre. Donc voilà, plus on grandit dans ces choses... On a de l'assurance parce qu'on sait la réalité. Et il y a encore un troisième domaine dans lequel je voudrais qu'on ait de l'assurance, c'est l'assurance du pardon. Parce que comme nous ne sommes pas des chrétiens parfaits, il nous arrive que nous puissions faire des choses de travers et nous ne pouvons pas avancer avec Dieu si on a tout le temps la conscience du péché qui nous pèse, c'est lourd sur nous. Et donc... Nous avons là aussi une assurance que la Bible nous donne. Encore une fois, dans 1 Jean, chapitre 1 et verset 9. Dans certaines versions, c'est « si nous confessons ». Alors, confesser, ça veut dire « dire pareil que ». Ici, dans ma version, c'est « si nous reconnaissons nos péchés ». « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal ». Donc, nous sommes un peu balancés entre deux équilibres, à la fois... Il faut que nous puissions reconnaître nos péchés. Pour les reconnaître, à un moment donné, il faut dire oui, j'ai agi de travers. Le verset 10 nous donne l'explication suivante. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc si quelqu'un dit non, moi je suis pur, je suis parfait, bon, il est lui-même égaré et en même temps il ne peut pas espérer de l'aide de Dieu. Vous pouvez recevoir de l'aide que si vous reconnaissez que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide. Et à ce moment-là, ben, il faut venir à Dieu et les reconnaître. Et ce qui est intéressant, c'est il nous est dit, il est fidèle, fidèle, ça on le savait de la part de Dieu, mais juste pour nous les pardonner. Juste, ça veut dire il exerce sa justice en nous pardonnant. Vous le réalisez ça? C'est juste qu'il nous pardonne. Là, c'est pas une faveur, c'est une chose qui nous est due. Elle nous est due parce que la justice de Dieu, c'est puisque Jésus a souffert pour les péchés, ce n'est pas normal que quelqu'un d'autre doive encore subir. C'est comme si quelqu'un était reconnu coupable d'un crime, il reçoit sa punition au niveau du tribunal, et dans la rue, on trouve un autre, on lui dit « Ah, toi aussi », et il est condamné pour le même crime. C'est pas possible. Je ne parle pas des gens qui sont complices. Je parle là d'une situation où il y a deux personnes qui paieraient pour la même chose. Ce n'est pas selon la justice. Donc là, il nous est dit, Dieu est juste. Donc, pour notre part, il suffit de reconnaître nos péchés et donc, il nous est dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et sur quelle base est-ce que cela se passe? Ben, ça se passe sur la base du verset 7 qui est au-dessus. Il nous est dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est une réalité, le sang. Ça peut peut-être paraître bizarre à quelqu'un qui n'a pas trop l'expérience de notre langage biblique, où nous, on a bien compris la notion de sacrifice. Sacrifice, c'était pour nous rapprocher de Dieu. Il fallait que quelqu'un puisse faire cet acte de justice. Mais nous l'avons réalisé, grâce à Dieu, et donc on le reconnaît comme tel. On pourrait encore parler longtemps sur beaucoup de choses, mais je voulais qu'on commence à avoir un certain nombre d'assurances pour notre quotidien. Et il y a certainement encore d'autres domaines que nous pouvons creuser. Et simplement, donc, nous disons merci à Dieu pour ces trois aspects que nous pouvons expérimenter dans la vie de chaque jour. Nous pouvons être sûrs d'être enfants de Dieu, sûrs du salut. Nous pouvons être sûrs que nos prières sont entendues. Et nous pouvons être sûrs que Dieu, il est toujours là pour nous pardonner. Et pour ça, on pourrait encore parler de beaucoup de choses. Mais les premiers apôtres, ils priaient pour de l'assurance. Ils priaient pour de l'assurance. Priez pas, Seigneur, protège-nous et que tout aille bien, que on n'ait pas de problème. Il disait non, même s'il y a de la difficulté, mais Seigneur, donne-nous de l'assurance. Alors, des passages encore que je cite simplement, il nous est dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Il nous est dit aussi que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc c'est un sujet qui n'est pas épuisé. Hein. On pourra encore le développer souvent. Je voulais citer le Notre Père, mais nous l'avons fait. Et donc je voudrais simplement encore, pour rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, toute la parole de Dieu, de Genèse ou jusqu'à Apocalypse, elle est vraiment utile pour nous enrichir, pour notre nourriture spirituelle, pour nous éclairer sur un certain nombre de choses. Et nous recevons de la part de Dieu vraiment sa sagesse. Et même des choses de l'Ancien Testament sont remarquables. Et j'aimerais terminer sur la bénédiction finale, celle qui se trouve dans Nombre 6, au verset 24. J'aime tellement ce passage que nous allons le prononcer les uns sur les autres. Que l'Éternel te bénisse et te garde, on peut se le dire les uns aux autres. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. T'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.